ce matin, on va parler du dossier Desjardins. Hier, il y a eu un premier cas. Mathieu Jonca, qui est un courtier, qui est un prêteur privé de Québec, qui a été déclaré coupable, il a acheté des données confidentielles. Et évidemment, ça émanait du vol de données chez Desjardins. Il aurait payé 100 000 pour avoir bien des détails sur des personnes qui ont des prêts hypothécaires, sur le niveau d'endettement, bref, des informations là personnelles. Et s'est servi de ça pour aller faire de la sollicitation et faire de l'argent. J'en parle avec Maître Denis Galland. Bonjour, Denis.
Bonjour, Paul.
Oui,
bien, écoute, pour juste faire du pouce ce que tu dis, là, on a un exemple concret des conséquences du vol de données chez Desjardins. On pense tout de suite à première chose, à vol d'identité, mais la décision, à mon avis, est hyper importante de démontrer ce qu'on peut faire avec des renseignements ultra sensibles là, qu'on a, nous, auprès de nos institutions financières.
OK. Peux-tu me l'illustrer dans ce cas-là, ce que ça veut dire?
Ben, je te donne un exemple. Dans le cas de Mathieu Jonca, il a acheté une liste des individus reliés au vol de données. Alors, il a payé 100 000 piastres pour la liste, pour une liste qui comptait environ 150 000 à 200 000 noms. Là-dessus, t'as le nom de la personne, ses données personnelles, mais également le montant hypothécaire qu'il doit, la valeur de son immeuble, mais également son ratio d'endettement ainsi que ce qu'il a là, sur ses marges de crédit, carte de crédit. Ce qui fait en sorte que l'individu en question, lui, c'est parce que, comme tu l'as dit, il y a deux compagnies. Il est en même temps courtier hypothécaire, mais également, il y a une compagnie qui fait du prêt privé. Fait que ce qu'il faisait, c'est qu'il sollicitait des gens pas très endettés, mais endettés, qui techniquement pouvaient pas avoir une deuxième hypothèque de l'institution financière parce que l'immeuble est hypothéqué à 80%. Et ce qu'il faisait, lui, en sorte, c'est qu'il disait, écoutez, moi, je vais vous chercher une hypothèque. Il trouvait une hypothèque, mais l'hypothèque, c'était de sa compagnie, et il faisait des prêts deuxième hypothèque à 20% avec des frais, là, je te donnerai des exemples tantôt, là.
OK, mais donnez tout de suite tes exemples, tiens.
Ben, je te donne un exemple, puis ça, c'est très détaillé dans la décision. Par exemple, la personne emprunte 54 000 $. Alors, lui, il va faire ça, il va prêter 54 000 $ à un taux d'intérêt de 19,99%. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il chargeait frais d'ouverture de dossier puis des frais de courtage, qui est totalement interdit, là, de 12 399,25. Vois-tu, là, tu le payes très cher, ton prêt hypothécaire. Puis, effectivement, c'est ces gens-là qui ciblaient, là.
Là, je vais te ramener dans ton ancienne vie de l'Autorité des marchés financiers puis public en même temps. Là. Toi, j'étais au public, mais ça, c'est l'Autorité des marchés financiers. Là, des courtiers hypothécaires, c'est supposé travailler dans mon intérêt, ça?
Ça en plaît, ça. C'est ce qu'on lui reproche. Bon, juste pour être la nuance, aujourd'hui, c'est l'Autorité des marchés financiers qui aurait pris cette poursuite-là dans le comité de discipline. Compte tenu que ça a été pris avant, c'est l'organisme d'auto-réglementation du courtage immobilier qui a porté des accusations, donc a porté deux plaintes, quatre chefs d'accusation, et de ne pas s'être comporté là en fonction de la réglementation. Donc, tu l'as bien dit, un courtier hypothécaire, quand toi tu fais affaire avec un courtier hypothécaire, comme un courtier immobilier, il est supposé travailler dans ton intérêt. Donc, aller chercher le meilleur produit pour les besoins du client. Lui, c'est pas ça qu'il faisait. Lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il ramassait ces gens-là, sollicitait ces gens-là. Vous voyez que ces gens-là, souvent, étaient pris à la gorge, donc ils n'avaient pas le choix. Puis ils disaient, regarde, moi, tu as besoin de dégager de l'argent sur ton immeuble. Tu as besoin d'un prêt de 60 000, 70 000. Je vais enregistrer une deuxième hypothèque. Tu vas pouvoir clairer tes dettes. Et ce qu'il faisait, c'est que, et c'est ça totalement interdit, c'est que en faisant ça, il se prenait une cote comme courtier hypothécaire, mais il se prenait également une cote avec sa compagnie de prêt, d'ouverture de dossier. Fait que l'exemple que je t'ai donné tantôt, par exemple, il se prenait des frais de courtage de 3 500 $, puis il se donnait également un 8 000 $ de frais d'ouverture de dossier, ce qui n'a pas de sens. Ça.
Quand il dit « j'ai acheté les données, mais je ne peux pas savoir que c'était des données volées ».
Ah ben ça, écoute, regarde, au pire aller, là on n'est pas dans le criminel, là on est vraiment là dans le droit professionnel, et ça changeait absolument rien aux yeux du comité de discipline, comme elle est fait en disant, écoute, il l'a entravé parce que que tu sais qu'en droit professionnel, comme moi, je suis avocat, un comptable, etc., moi, quand le syndic, c'est pas comme en droit criminel, j'ai pas droit au silence, là. Si, mettons, je suis soupçonné d'un crime, là, je suis obligé de répondre, je suis obligé de donner mes livres, et on l'a également accusé d'avoir entravé la syndic, par exemple, pour avoir donné de la fausse information quand il a été rencontré par la syndic, mais également, au début de tout, quand c'est sorti public, le vol de données, ce monsieur-là, il a effacé son ordinateur, puis ça, on lui reproche, le comité de discipline lui reproche, là.
Hey, on n'a pas le détail de personne, mais Québec va présenter son projet de loi aujourd'hui là, pour faire en sorte de dégager l'environnement des hôpitaux puis des écoles, puis probablement des centres de la petite enfance. Là. Comment est-ce qu'on peut faire ça sans interdire les manifestations, d'après toi, puis sans cibler un groupe en particulier?
Ben moi je te dirais, je pense que ça va être un copier-coller, puis écoutez, je vous ai écouté, toi et Bernard, j'ai lu dans les médias, moi je pense que ça va être un copier-coller là des ce que Gaétan Barrette avait fait, puis le projet de loi qu'il avait fait sur les cliniques d'avortement, c'est-à-dire qu'il va mettre, à mon avis, ça va être des périmètres, et il va empêcher, là, il va avoir un paquet de comportements interdits, ce qui va finalement donner aux policiers une poignée si jamais ces gens-là ne respectent pas la loi, là. Et ces gens-là pourront recevoir des constats d'infraction. Puis, peut-être une petite correction, tu me réinviteras, mais, tu sais, on dit, bon, ces gens-là accumulent les constats d'infraction, mais fais jamais oublier que même si c'est une infraction provinciale, donc réglementaire, les agents de la paix ont toujours le pouvoir d'arrêter la personne s'ils considèrent qu'ils continuent à perpétrer l'infraction, là. Donc, je pourrais vous donner des détails une autre fois.
Bien sûr.
J'ai très hâte de lire le projet de loi.
Ça se peut qu'on s'en parle demain matin, Denis.
Ça se peut pas.
Ça va.
Bye-bye. Bonne journée à toi et à tes auditeurs.
Oui, merci. Maître Denis Galland, donc, qui est associé principal chez Roy Bélanger. Puis puisqu'on parle des anti-vaccins, la presse, Hugo Dumas et Patrick Lagacé, nous apprennent ce matin que Guillaume Lemaitre-Vierge ne pourra pas réaliser les épisodes de District 31. Il fait ça depuis 2019 parce qu'il n'est pas vacciné. Et évidemment, quand un réalisateur travaille sur des plateaux, proximité... des acteurs, des techs. Alors, personne précise, personne confirme, mais un, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire ça. Pour ce qui est des émissions enregistrées, là, notamment les chanteurs masqués, il paraît que la production est presque terminée. On dit qu'il a respecté les consignes de consignes sanitaires. Alors, c'est sûr qu'il va perdre des contrats, puis c'est sûr qu'il va perdre des apparitions. La grande question, Hyundai va faire quoi? En apprenant, puis il n'est pas là actif comme Mme Casabonne là, sur les réseaux sociaux, là, il ne multiplie pas les sorties. Mais on donne un exemple où il aurait tenté de convaincre d'autres artistes de pas se faire vacciner en disant que c'était du lavage de cerveau. Il paraît qu'il a appelé dans deux restaurants pour essayer d'avoir des réservations, même s'il n'y a pas le passeport vaccinal. Alors, comment son commanditaire va prendre ça? Puis les commanditaires, habituellement, c'est du monde assez frileux. Qui veulent pas trop de controverses, puis dès que le vent se lève, ont tendance à ouvrir la porte et se sauver. On va aller retrouver Marc à une heure de pointe que tu pourrais qualifier de...